Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa
bonjour, bonjour galérienne, galérien, bonjour auditrice, auditeur. Eh bien oui, c'est sur Radio Galère, Livres et Amis, pour l'émission du mercredi 26 mars. Nous avons retrouvé Françoise, qui est donc notre grand-mère du mois de mars. Et donc, on en a beaucoup parlé, on en parle encore, et puis après on n'en parle plus, d'accord. Mais quand même, on est content pour elle. Et puis en plus, c'est le printemps. Donc voilà, le beau temps est arrivé à Marseille. Ça a l'air d'être stable. On peut déjeuner en terrasse. On peut faire la fête le soir sans avoir trop froid. Voilà, tout va bien. Tout va bien ici parce qu'ailleurs, évidemment, c'est toujours la catastrophe. Alors excusez-moi, de temps en temps, je me réjouis de ce qui va bien. Et puis j'oublie les catastrophes parce que sinon, on ne vit plus. Donc, je suis désolée pour les gens qui continuent à vivre sous les bombes, les agressions et les horreurs. Mais, je me suis laissée aller à dire qu'à Marseille, ça va, merci. Il y a sûrement des gens pour qui ça ne va pas non plus, mais j'en suis désolée pour eux aussi. Et je continue sur ma lancée de « il se passe plein de choses intéressantes ». La semaine du printemps, c'est aussi une grande semaine d'engagement, pleine d'événements. Il y a le festival musique et cinéma autour de l'Arplex. Je crois que cette année, on n'aura pas le temps d'y aller, mais enfin, je vous le signale quand même. Comme c'est le printemps, c'est le Nouvel An kurde et le festival culturel kurde qui s'appelle Nevroz, qui a eu déjà 2-3 manifestations à la Friche, au Gyptis et un peu partout dans le quartier, puisque ce festival kurde est soutenu par la mairie du 2e-3e. Donc ça continue, il y a en particulier un super concert le 2 avril, c'est quand le 2 avril? Ça doit être mardi prochain. En tout cas le 2 avril à la Friche, un super concert dans le cadre du festival culturel Nevroz. Et puis à la Friche et autour du festival du film engagé aussi, des tas de choses intéressantes, dont en particulier la soirée d'ouverture vendredi soir au Gyptis, en avant-première, le film Fanon. Donc le film Fanon va sortir en avril et il est donc en avant-première au Gyptis vendredi soir à 19h30. Et à partir de la semaine prochaine, il y aura aussi le festival qui s'appelle Ilienne. Alors ça, je vous en reparlerai parce que je crois que ça commence jeudi de la semaine prochaine. Dans le cadre du festival Ilienne, il y a aussi des spectacles, des performances, des projections de films par des femmes des îles de l'océan Indien, de l'océan Atlantique, de l'océan Pacifique et... Donc nos camarades des Comores ou des Antilles ou de la Nouvelle-Calédonie qui organisent des événements culturels. Écoutez, revenons à notre livre du jour. Vous vous souvenez peut-être que la semaine dernière, on a commencé à lire un livre de Nelly Slim, « Entre ici et avant, il y a la mer ». Et ce livre, je vous avais dit que je continuerai aujourd'hui à vous en faire part. Dans la mesure où la petite histoire, l'espèce de petite musique en fait qui se détache de ce livre est tout à fait attachante et où on a eu envie d'ailleurs, il y a 2-3 personnes qui me l'ont dit, c'est bien de continuer, bon bah tant mieux. Entre ici et avant, donc il y a la mer, Nelly Slim nous raconte, vous vous en souvenez, son enfance en Tunisie, et puis, enfin son enfance et son adolescence en Tunisie, Et ensuite, son adaptation, souvent difficile, à Paris pendant son jeune âge adulte, pendant qu'elle est étudiante, puis dans ses premiers emplois un peu précaires à Paris. Alors, en fait, peut-être que vous vous souvenez aussi, notre héroïne, qui est donc la narratrice, hein, c'est pas tout à fait Nelly Slim, c'est quand même un personnage de narratrice créé par Nelly Slim. Notre narratrice, notre héroïne, si vous voulez, n'a pas de nom. En fait, elle n'est pas nommée. Elle est en Tunisie, l'amie de Zeyneb ou Delphine. Elle est la petite fille de Mima, on va en reparler, et sa grand-mère. À Paris, elle est l'amie de Sally et de quelques autres, mais donc elle n'est pas nommée. Moi, j'avais pensé que peut-être à la fin, elle serait nommée. Eh bien non, à la fin, elle retrouve ses racines, enfin on verra tout à l'heure, avec la disparition de sa grand-mère et l'apparition au contraire à Paris d'un ami tunisien, Saïd, qui lui assume sa tunisianité. Alors qu'elle, finalement, l'a toujours refusée, ou dans toutes les premières parties du livre en tout cas, met sous l'étouffoir cette origine tunisienne parce qu'elle en a honte. Et on va en parler assez vite là, avec la prochaine lecture, puisque dans cette prochaine lecture, elle nous dit au fond qu'elle a eu, en tant qu'enfant déjà, et ensuite plus tard, le désir de passer inaperçu, enfin de se dissimuler, disons. Tu sais, Sally, un jour, on m'a oublié à la piscine. Sally s'esclaffe. On t'a oublié à la piscine? T'avais quel âge? Je réponds, 11 ans. Devant moi, deux bassins, celui très grand pour les bons nageurs, ceux qui font des allers-retours sans s'arrêter, on voit le rythme régulier de leur tête hors de l'eau, et un autre bassin à droite, celui-là plus petit. Et c'est là que les enfants se baignent, par exemple nous, quand on nous emmène à la piscine. Souvent, l'adulte qui les accompagne a l'air de s'ennuyer. Et entre les deux bassins, il y a une espèce de banc de carrelage ou de partie de carrelage. Ce carrelage a l'air glissant, il faut se méfier. Et à l'entrée des deux bassins, près des échelles de métal, il y a des rangées de tongs en plastique. À l'époque, je ne dis pas tongs, je dis schleka, parce que c'est ça qu'on dit en Tunisie. Et j'ai toujours dit schleka. Rigole pas, rigole pas, ça se dit vraiment schleka. À l'entrée des deux bassins, près des échelles de métal, donc, il y a des schlekas en plastique.
Sous mes fesses, le carrelage froid. Je suis malade ce jour-là. Alors, le carrelage froid, j'ai eu le temps de le sentir, qui s'imprime sur ma peau pendant que je regarde les élèves de ma classe nager dans le grand bassin. Le sifflet fait un bruit strident pour indiquer que c'est l'heure du plongeon. Les élèves montent sur le plot. Leurs orteils ont l'air rikiki, crispés par le froid de l'eau. J'ai tout le temps de détailler leur maillot de bain. Le bonnet leur fait une sacrée tête de thon. Je suis bien contente de ne pas être à leur place. Coup de sifflet. Ils plongent. Je retiens mon souffle avant que leur corps ne touche l'eau. Le silence de cette seconde-là, juste avant l'éclaboussure, je ne m'y habitue pas. L'odeur de chlore, par contre, je finis par m'y habituer. Il est insupportable au début, mais ça sent le propre. Les 99,9% de germes éliminés. Ça me tranquillise. À la fin, oui. Des 2 heures de PS, le silence revient dans la piscine. Les élèves se dirigent vers les vestiaires. Leurs slekas font ploc-ploc sur le sol mouillé. Ils se taquinent, rigolent fort. Il y en a un qui fait mine de pousser l'autre dans l'eau. La fin du cours, enfin. Mes yeux suivent la maîtresse jusqu'à la porte des vestiaires, puis je l'entends hurler au loin qu'il faut se dépêcher. Le quart de ramassage scolaire va bientôt arriver. Je rassemble mes affaires. D'habitude, j'ai sa voix stridente dans les oreilles pendant que j'enfile ma culotte à toute vitesse. Là, son cri est étouffé et déjà couvert par l'arrivée de nouveaux nageurs. Droite comme un piquet, j'attends qu'elle vienne me chercher pour rejoindre le reste des élèves. Je l'imagine occupée à houspiller les retardataires et séparer ceux qui se chamaillent. Mon manteau à moi est enfilé et mes chaussures bien lacées, mais j'ose pas débarquer dans le vestiaire tout habillé, parmi les autres à moitié nus, les cheveux mouillés par la douche. Je préfère patienter ici. Dans ma poche, mes mains tripotent les restes d'un vieux mouchoir usagé. Je me demande à côté de qui je vais me mettre dans le bus. Je ne sais jamais comment les autres élèves se choisissent. Au bout d'un moment, quand même, je commence à trouver le temps long. Je me rends compte que j'entends plus de bruit dans les vestiaires. Ça serait possible que... Je descends les gradins lentement, un à un. Quand je m'approche de la sortie, je vois le parking désert à travers la porte vitrée. Le car n'est plus là. Aucune trace de la maîtresse. Je sens les larmes monter. Je serre les poings. Je regarde autour de moi. Je sais comment rentrer. C'est pas si loin. Le vent me fouette le visage. Un pas après l'autre, je m'éloigne de la piscine. Mon sac Eastpak qui bat la mesure sur mon dos. Et tu vois, Sally, je me suis sentie très seule à ce moment-là. Très triste aussi. Mais en même temps, j'avais remporté une victoire.
Ouais, c'est bizarre. Vous vous souvenez plutôt que Nelly Slim nous met de temps en temps entre ses souvenirs d'enfance ou d'adolescence, entre ses moments de vie de jeune adulte. Elle nous met des petits morceaux d'encyclopédie sur la mer et ses habitants, et surtout ses habitants des profondeurs. Alors elle nous dit, c'est bizarre. Mais les crevettes, c'est clair pour se camoufler. Et moi aussi, j'ai passé ma vie à tenter d'être invisible, tenter de disparaître. Ce que je voulais le plus au monde, c'est que personne ne me voit. Et là, c'était ma consécration. Sally me fixe, pensive. Et oui, vous savez, enfin, vous vous souvenez justement, Sally, c'est... Tout sauf quelqu'un qui disparaît. Sally, elle est grande, elle a une voix forte, elle se manifeste. Et derrière elle, en effet, notre héroïne tente de se faire oublier. Et ce jour-là, à la piscine, eh bien oui, elle avait remporté une victoire parce qu'on l'avait oubliée. Un petit texte maintenant qui nous résume un coup de fil avec, vous savez, un garçon qui l'avait dragué il n'y a pas très longtemps dans notre lecture précédente, Melvin. « Salut beauté, c'est Melvin. J'espère que t'es bien rentré l'autre jour. On se revoit quand ?» Silence. « Tu restes silencieuse ? C'est parce que je t'ai fait trop de bien la dernière fois ? Eh, je vois que tu lis les messages. Pourquoi tu me réponds pas ?» Bon, salut, hein. Je pensais pas que t'étais une de ces meufs qui allument les mecs et puis après qui arrête de répondre. Ça s'est pas arrangé donc avec Melvin et là, c'est définitif. Je pense que Melvin n'y rappellera pas. Alors la suite, c'est en océanographie et en biologie marine, le ressac, c'est un aller-retour violent des vagues formant une déferlante inverse, un reflux vers le large. Ce ressac, il intervient après avoir frappé un obstacle dur et peut se déplacer. Il peut au contraire aussi déplacer les matériaux de haut en bas, entraînant un échange de sédiments entre les rivages. Le ressac crée du mouvement entre les rives. Les sédiments émergent en forme de souvenirs. Et oui, là, on comprend très bien pourquoi Nelly Slim a recours à cette encyclopédie, entre guillemets, marine, parce que le ressac qui crée du mouvement entre les rives, c'est sans doute exactement ce qu'elle ressent. Et le fait que les sédiments émergent en forme de souvenirs, c'est aussi ce qu'elle va nous dire et ce dont elle va nous faire part dans la partie suivante.
Mima a des boucles d'oreilles en forme d'oiseau. Je crois qu'elles sont en or. Leurs ailes sont bleues translucides. Elles reflètent la lumière de la fenêtre. C'est des pierres précieuses, Mima ? Je joue à les faire voler au-dessus de sa coiffeuse, le matin, avant qu'il ne se fixe à ses lobes pour la journée. Tu rigoles ? Si c'était des pierres précieuses, on ne vivrait pas dans cet appartement et j'aurais une Mercedes. Non, c'est du toc en verre, direct du marché. Mima est très directe. Parfois, elle dit des choses qui font mal, mais elle sait s'excuser, prépare de très bons gâteaux et surtout, elle sait faire les plus belles robes du monde. Mima est quelqu'un de très occupé. Quand j'ai des problèmes comme une mauvaise note en classe, elle s'assied près de moi, pose des questions et écoute mes réponses patiemment, mais ça ne dure jamais plus de 15 minutes. Ensuite, elle retourne à la cuisine pour faire à manger. Briques, Slata Meshuya, Slatet Blankit, Markat Gelbena s'étalent sur la table en profusion au cas où quelqu'un passe. Après le déjeuner, une aiguille à la main, son nez chaussé de lunettes au vert épais, elle rapièce les vêtements que lui confient les femmes du quartier. C'est une couturière hors pair dont toutes les voisines vantent les mérites. Un jour, elle m'a fait une robe, à moi. Ça a commencé avec des tissus de toutes les couleurs. Elle m'a fait choisir celui que je préférais, rouge à fleurs jaunes, et elle a découpé. Elle était très concentrée sur son maître de couturière et écrivait tout un tas de chiffres au crayon sur une feuille blanche posée bien à plat sur la table. Et puis, elle a commencé à assembler les bouts ensemble. Sa machine faisait beaucoup de bruit. Je me suis couvert les oreilles. Quand elle a levé les yeux, elle s'est moquée de moi. « Aïa, Mimti, toi, t'aurais pas pu bosser à l'usine, c'est sûr. » N'empêche, après, j'ai eu une robe rouge et jaune qui virevoltait et dansait autour de moi. Qu'est-ce qu'elle était belle! Je la portais tous les jours, mais Mima m'obligeait à la retirer pour la laver. Un après-midi, de grande chaleur, gère dans l'appartement désœuvré. Mima a encore une fois mis ma robe dans la machine à laver après que je l'ai portée plusieurs jours de suite jusqu'à ce qu'elle décrète « Quitte, ça sent l'infection ». Il est 2 heures de l'après-midi, l'heure de la sieste. Elle caille là, l'institution. Tous les rideaux sont tirés pour ne pas laisser entrer la chaleur étouffante de la ville. Il doit bien faire 40 degrés dehors. Trop chaud pour sortir. Un ventilateur à âne dans le salon. Il n'y a rien d'autre à faire que s'asseoir et attendre patiemment que le soleil tombe. Je m'affale près de Mima, assise comme à son habitude sur la banquette bleue de la salle télé. Je voudrais mettre le ventilateur sur 3, la vitesse maximale, mais en guise de refus, Mima met une pichenette sur mon index qui s'avance vers le bouton. Le bruit l'empêche de regarder son feuilleton. Comme je n'ai rien d'autre à faire, je contemple, hypnotisée, les mains de ma grand-mère égrenée El Sheba, son chapelet. Les yeux fixés sur l'écran de la télévision, elle psalmodie. « Tu fais quoi, Mima ?» Je sais qu'elle ne me répondra pas avant de finir le tour. Ses ongles ont le bord blanc égal, ça se voit qu'elle en prend soin. Ses doigts sont ridés par l'âge. Elle finit par me dire à voix basse. « Je prie Allah et son prophète Mohamed. » Je saute sur l'occasion. « Tu m'apprends ?» Elle me tend un autre chapelet et me montre le geste pour l'égrener. Ses doigts agiles font rapidement passer une perle après l'autre sur le fil. J'essaie de reproduire ses gestes, mais les miens sont lents et maladroits. Je cherche où c'est que je dois vous lire la suite. Elle ne me prête pas la moindre attention. Le regard rivé sur le feuilleton égyptien qui passe tous les mercredis. Je sors du salon en traînant les pieds. Franchement, c'est quoi cette idée de parler au prophète avec un collier? Et puis, comment elle discute en même temps qu'elle regarde la télé? Genre, le prophète et elle, ils parlent de ce qui se passe dans le feuilleton? Ça veut dire qu'elle préfère parler avec lui que parler avec moi, qui suis près d'elle à dégouliner de sueur en tentant désespérément de négocier la puissance du petit ventilateur. À 10 ans, je suis jalouse du prophète Mohamed. En même temps, moi aussi j'ai mon idole, la star de mes pensées. C'est à Amine que je rêvasse dans la journée. Mima, quand elle parle de moi aux voisines du quartier, elle dit toujours « Elle a la tête dans les étoiles, elle est dans la lune, comme d'habitude, elle est ailleurs. Si elle savait que c'est pas aux étoiles que je pensais, mais à Amine, elle piquerait une crise sûre et certaine. Amine, c'est un garçon dans ma classe, je le trouve trop beau. Il a un pantalon que j'aime particulièrement, un baggy gris avec de grandes poches sur le côté. Parfois, je regarde ses fesses quand il marche devant moi. Mais après, je me sens coupable, alors j'essaie d'arrêter. Il plaît à toutes les filles. Il donne de l'attention à chacune sans exprimer d'intérêt particulier pour personne. Il entretient le mystère. Le soir, avant de m'endormir, je nous imagine nous rencontrer par hasard, échanger un regard, un bisou. La suite est floue. Delphine, c'est une peste. le personnage de la méchante petite fille dans les films. Elle est sympa et rigolote, jusqu'au moment où elle sort une pique qui fait taire tout le monde. Ce genre-là. Pourtant, au départ, je n'aurais jamais imaginé qu'elle était comme ça. À son arrivée dans l'école, avec ses cheveux blonds coupés aux épaules et son t-shirt Harry Potter, elle m'a tout de suite fascinée. Elle arrivait de La Rochelle, parlait un français qui n'avait rien à voir avec la langue bâtardisée que nous utilisions ici et avait un air légèrement condescendant qui m'a tout de suite séduite. En plus, elle avait un chat, un chat. Les chats que je connais, moi, c'est les chats de la rue, maigrelets et piteux. Ma grand-mère leur donnait des coups de pied dès qu'ils rôdaient trop près de la cuisine. Delphine avait un chat noir et blanc dont elle montrait la photo à qui voulait. J'ai su que je voulais être son amie coûte que coûte. Le problème, c'est que quand elle s'approchait de moi dans la cour de récré, je me transformais instantanément en carpe. Alors, j'ai fini par lui écrire une longue lettre au stylo rose, pleine de compliments, qui se concluait par une demande officielle d'amitié. Elle a dit oui, et à partir de là, on s'est mis à faire des choses ensemble. Je ne parlais plus avec Zaineb à l'époque. Delphine était ma meilleure amie, ma seule amie en vérité. Ce n'est que plus tard que je me suis rendu compte que j'avais beau être très fière d'être son amie et accepter volontiers de lui faire détresse quand elle me le demandait, quand même, elle n'était pas toujours très gentille. Par exemple, Delphine, quand on l'a complimentée, elle prenait un air méchant pour dire merci, comme si au fond ça ne lui faisait pas plaisir. Je lui prêtais des stylos qu'elle me rendait tout mâchouillée, et des vêtements et ses vêtements étaient plus beaux que les miens. Parfois, elle se moquait de moi parce que je ne courais pas vite et que je transpirais beaucoup. Elle disait que c'était pour rire et se fâchait si ma voix tremblait. Elle disait que c'était débile de pleurer pour ça, que je n'étais pas assez forte. J'ai fini par penser qu'elle avait raison. J'observe soigneusement ses gestes et la façon dont elle prononce les mots. Enfant, lavande, bruyant. Elle a ce parler caractéristique, le même que celui des archives de Lina, qui n'a rien à voir avec celui de ma grand-mère qui confond les « on » et les « en ». Chez moi, seule devant le miroir, je m'applique à répéter ses phrases, ses mimiques, son rire. Quand Mima entre dans ma chambre, sans prévenir, elle me trouve les sourcils froncés en train de m'observer consciencieusement. Elle me houspille. « Va faire des devoirs » en me gratifiant d'une petite tape sur le dos. Assise sur une chaise en plastique près de moi, Zaineb étire ses jambes. Je fais pareil. Le ciel noir-violet nous regarde d'un air grave, tandis que nous mordons consciencieusement dans les figues mûres. En août, on ne peut être dehors que la nuit. C'est le seul moment frais de la journée. Je me tourne vers Zaineb. Notre vie, elle ressemblera à quoi dans 10 ans, tu penses ? Elle soupire. Moi, je serai super riche. Je conduirai une Porsche, minimum. Et j'aurai un petit copain. Il sera super beau. Beau genre Leonardo DiCaprio ? Plus beau encore. Nous restons un moment silencieuses, les orteils recourbés. Je m'amuse à arracher des brins d'herbe de la pelouse que je distingue à peine dans la pénombre. Et toi, lance Zaineb ?
Moi quoi ?
Bah, tu seras qui dans 10 ans ? La tête penchée sur le côté, je fixe un nuage immobile. Je retire avec mes doigts les filaments de figues coincés entre mes dents. Tout me paraît très silencieux, d'un coup. Je me racle la gorge. Je vivrai en France, déjà. Je réfléchis quelques secondes. J'aurai les cheveux lisses avec une frange, comme ceux de Delphine. J'aurai toujours des fringues à la mode. Et j'aurai une histoire super romantique avec un garçon qui sera très amoureux de moi. Un footballeur, peut-être. Non, un artiste, plutôt. Mon regard divague dans le futur qui s'annonce. Tout sera différent, je le sais.
Oui, donc ça, c'est vraiment l'enfance, les rêves d'enfance qui, on vient de le voir dès le début, chez donc notre héroïne, sont des rêves de vie en France, de vie différente, avec pour modèle cette fameuse Delphine, qui est, elle, une petite Française installée à ce moment-là en Tunisie. Donc, en fait, notre héroïne ou notre narratrice, comme vous voulez, rêve dès sa petite enfance de France, de parler français sans accent, de ressembler aux petites Françaises qu'elle prend pour modèle. Et son amie Zeyneb, sa grande amie Zeyneb, pâtit en fait de la comparaison avec, par exemple ici, Delphine, puisque Delphine, elle, a cet attrait de la France et de la vie dans un pays où, au moins dans leur idée, tout le monde est riche, tout le monde réussit, tout le monde a des voitures comme des Porsche ou des Mercedes, puisque vous voyez, les belles voitures, ce sont les Porsche ou les Mercedes. Mais il y a aussi la consommation qui prend pour modèle également les magasins français. Alors, par exemple, notre narratrice nous raconte que dans son enfance, une des choses qui l'a fait rêver au niveau de la consommation, c'était l'ouverture du premier magasin Carrefour.
Quelques jours plus tard, le premier magasin Carrefour ouvre en Tunisie. C'est la cohue pour s'y précipiter. Tout le monde y va de son petit commentaire. On raconte que les vieilles y traînent avec leurs chaises longues pour profiter de la clim, qu'il y a des gens assis dans l'hypermarché à ne rien faire d'autre qu'admirer les rayons, qu'il y a des vigiles qui ne te laissent entrer que si tu es bien habillé. La gérante du magasin vient directement de Paris et il n'y a que des marques importées. Avec Zeyneb, on décide de partir en visite pour en avoir le cœur net. On prend le taxi, dégoulinante de sueur, dans la Kaïla, l'heure de la sieste. On est tout excité, l'impression d'entrer dans l'histoire. Rétrospectivement, je me dis que c'était pas si bête, on avait du flair. On venait célébrer une étape gigantesque dans l'installation de l'industrie de masse en Tunisie. D'ailleurs, le chauffeur du taxi nous taquine, complice. Vous êtes le 22e trajet que je fais vers Carrefour de la journée. Je les compte tellement il y en a. On trépigne. Il pile devant un énorme bloc de béton. Le C, rouge et bleu, juché sur le bâtiment, nous confirme qu'on est bien arrivé. On reste les yeux ronds devant l'immense parking. Le goudron s'étale. On marche plusieurs minutes avant d'atteindre l'énorme double porte vitrée, coulissante, qui s'ouvre enchanteresse quand on pose le pied devant. Et puis la clim, c'est incroyable, cet air frais, cet univers parallèle dans lequel la température descend d'au moins 15 degrés, dans lequel tout est blanc, propre et écrit en français. Au sol, les carreaux fraîchement lessivés brillent sous les néons. Il y a tellement d'allées qu'on n'en voit pas le bout. Avec Zeyneb, on entreprend de toutes les faire, l'une après l'autre, méthodiquement. On ne parle même plus. On se tient par le bras, silencieuse, écrasée par l'ordre et l'abondance. C'est l'Occident, autrefois lointain et rêvé, maintenant accessible. Première fois de ma vie que je vois des avocats. On déchiffre le petit écriteau en plastique sous le panier en osier. Ça se mange comment? Je chuchote dans un coup de coude à Zeyneb. Elle hausse les sourcils et secoue la tête. Aucune idée. Bien sûr, les rayons sont remplis des mêmes marques aux couleurs criardes qu'on retrouve au Aattar et à Touta. Mais ici, elles sont ordonnées dans une magie propre au capitalisme qui rend tout désirable. Zeyneb pointe son doigt vers une barre chocolatée. Elle est presque comme celle qu'on connaît, les quatre monticules enveloppés dans du plastique rouge, mais au lieu de la marque Momento étalée sur le dessus et sa transcription usuelle en arabe sur la tranche, là, c'est une nouvelle marque qui s'étale, Kit Kat, fière, rouge, dans un rond blanc, sans aucune trace d'arabe sur l'emballage. « Tu veux ?» elle me demande en tenant le paquet de 5 barres dans le creux de sa main. Elle chuchote, elle aussi, instinctivement, prise dans la dévotion propre à un lieu sacré. « Si tu veux, on le prend. » Je hoche la tête. Nous regardons le prix et ma gorge se serre. C'est bien plus cher que le Aattar ou Atuta. Mais sans se concerter, nous savons que nous allons acheter ces miraculeuses barres chocolatées Kit Kat que nous n'avons jamais vues ailleurs. Le lendemain, Delphine me regarde moqueuse en me rejoignant à l'entrée de la galerie commerciale où on a l'habitude de se retrouver. Regarde ce que je t'ai apporté. Elle me tend un petit paquet en carton blanc. Elle a noué un ruban rose autour. Il ressemble à celui de mon survêtement. Il y a des petits strass de la même couleur collés dessus. « Parce que je sais que tu aimes le rose, » elle m'explique. « C'est même pas mon anniversaire, » je murmure. La langue pâteuse subitement attendrie. Elle ne m'entend pas. Elle fixe mes doigts qui défont le nœud, qui ouvre la boîte. Son visage s'est à nouveau transformé. Son regard, tout à l'heure agressif puis rieur, cherche à présent le mien, anxieux. « Ça te plaît ? Tu m'avais dit que tu le voulais. Et moi, ça y est, ma mère m'en a acheté un œuf. » À l'intérieur de la boîte trône un téléphone rose et violet à clapet, magistral, celui que je veux depuis des mois, celui devant lequel je bave lorsque Delphine le sort de sa poche. Il a la fonction appareil photo, un écran couleur et surtout c'est mon premier téléphone portable. Mima a toujours refusé que j'en aie un à moi. Je remercie Delphine et la serre dans mes bras. Elle a l'air contente, je le suis aussi. Je suis en permanence sur le qui-vive, dans l'attente de la prochaine moquerie, du prochain changement d'humeur inexplicable qui me fera basculer dans le vide. J'ai peur qu'elle m'ait offert ce téléphone pour que je me sente redevable, que je passe plus de temps avec elle. L'ambivalence entre ses yeux nerveux et la condescendance de sa voix me met mal à l'aise. L'immense joie que je m'étais représentée depuis des mois a maintenant un goût amer. Et lorsque je... Cuisse contre cuisse, nous passons les portes automatiques, le téléphone serré au creux de mon poing et le cœur au fond de ma poitrine. Delphine continue de me scruter. Machinalement, je souris sans dire un mot. Je plisse les joues, allume mon regard. En réponse, son visage s'éclaire. Elle reprend son monologue volubile. Elle n'aura aucune raison de m'en vouloir. Je passe inaperçue. Mon histoire avec la France commence avec Delphine. Avec vouloir plaire à Delphine, espérer qu'un jour, elle me trouve à sa hauteur.
Donc, c'était les souvenirs d'enfance avec les deux copines, évidemment bien différentes l'une de l'autre, puisque Zeyneb, c'est la complicité à la tunisienne, entre guillemets, et avec ce voyage à Carrefour, par exemple, où les deux petites filles, comme on dit, bavent des ronds de chapeau devant le néocolonialisme du centre commercial. Et puis l'autre, donc, c'est Delphine, la petite Française importée, qui, elle, est éblouissante parce que, justement, elle représente cette France rêvée et cette France désirée, à la fois comme modèle, effectivement, colonial, mais aussi comme modèle de consommation et d'une consommation qui fait toujours rêver les petites filles. Le téléphone portable, évidemment, c'est, comment pourrait-on dire, l'incarnation, si un téléphone peut incarner quelque chose. Le téléphone portable, c'est l'incarnation de ce rêve de France, et à défaut de la Porsche et de la Mercedes, bah oui, le téléphone portable rose, c'est quand même quelque chose qui gratifie notre héroïne de ce qui l'avait bien fait rêver jusqu'à ce moment-là. Et puis l'ambivalence entre Zeyneb et Delphine, c'est aussi l'ambivalence qu'elle va retrouver une fois en France dans cette découverte d'une société qui est à la fois la société qui la fait rêver de petite fille et la société qui, quelque part, l'exclut. On va mettre la pause musicale maintenant avec une chanson ou deux chansons même de Camille. Alors Camille, pourquoi je l'ai choisie ? Je vous avais dit la dernière fois que j'avais pris des musiques du film de Un divan à Tunis. Et finalement, c'est un petit peu la comparaison. Enfin, la fille de Un divan à Tunis, elle est pleine d'assurance et elle vient s'installer en étant sûre de sa science et de sa féminité, mais qu'elle clame haut et fort. On pourrait dire qu'à l'inverse, Camille, elle est comme notre narratrice, une fille un peu cachée, un peu discrète. Dans la première chanson, elle nous dit que la rue est morte. Ben oui, quelquefois, c'est ce qui apparaît dans le livre de Nelly Slim, c'est que les rues sont mortes la nuit. Et aussi, elle va prendre ta douleur, c'est sa relation avec une autre fille, une amie qu'elle s'est faite comme Sally dans la deuxième partie de la vie de notre héroïne, puisque Sally est l'amie rêvée et l'amie devenue réelle. Ici, l'amie de Camille, Camille va à cette amie prendre sa douleur parce qu'elles ont en effet une relation tout à fait particulière. Alors, merci à Louise, que je n'avais pas nommée tout à l'heure, de nous passer Camille.
Je rêve à toi, à mes heures perdues. Hélas, à ma porte ce matin, la rue est morte, l'hôtel est quoi, les volets rabattus. Dans la cour d'école, un peu plus loin, les oiseaux se sont tus. Ta la la, ta la la, ta la la, ta la. Je rêve à toi, à mes heures perdues. Si j'en crois la poste ce matin, tu la 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 la. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet. Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la vraie de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui se taire dans le tiède de tes reins?
Prendre ta douleur, ou au contraire donner de la douleur, les souvenirs d'enfance ou d'adolescence entre ici et avant il y a la mer, donc de Nelly Slim, ou bien la relation de Camille aussi avec cette amie ou cette douleur. C'est absolument fabuleux. Enfin, j'ai adoré cette chanson. J'espère que vous l'avez aimée aussi, parce que c'est vraiment à la fois l'enfance, l'adolescence, le jeune âge adulte, la douleur du partage ou du non-partage. Et dans le livre de Nelly Slim, il y a tout ça aussi, avec, par exemple, dans l'enfance, la difficile relation entre les deux copines, la Delphine et Zeynep, que quelque part tout oppose. Et puis, dans le jeune âge adulte, la relation avec Sally, qui est à la fois un modèle, une attirance, et puis quelquefois un repoussoir. Enfin, toute cette dualité ou ces conflits, bien sûr, quand une personnalité se forme ou se structure avec l'espèce de mosaïque qui la constitue. Alors, notre narratrice nous dit en effet que grâce au téléphone de Delphine, enfin le sien maintenant, elle pouvait écrire des messages quand elle voulait. Elle devait juste recharger son solde de temps en temps et Mima n'en était pas ravie. Elle trouvait que c'était trop d'argent et que ça permettait de voir des copines, oui, mais ça servait à quoi finalement, puisque elle les voyait tous les jours, ses copines. Alors, qu'est-ce qu'il y a à répondre à ça? Oui, bien sûr, la grand-mère, elle a raison. Et c'est ce que notre narratrice dit aussi à Sally un soir, qu'elle est là, allongée avec elle dans ce soir parisien. Et elle lui dit, bah oui, on est toutes pareilles finalement, tu te souviens? On était là, on était là comme on l'est maintenant. Je sens ton souffle contre mon oreille, dehors c'est l'orage. Le ciel est noir, traversé de temps en temps par de violentes éclaboussures lumineuses. Il est 22 heures, pourtant on se croirait vraiment au milieu de la nuit. Il n'y a plus un bruit dehors, seulement celui de l'orage. Fasciné, on regarde le vent secouer l'arbre gigantesque qui est là-bas devant la fenêtre. On dirait presque qu'il va tomber. L'eau se déverse à grand fracas, les gouttes martèlent le sol, mais aussi les toits alentour. Le bruit de leur impact couvre le reste des rugissements de la ville qui doivent bien continuer quelque part. On n'entend plus que la pluie battante, l'eau qui coule en rigole le long des murs, et puis nos respirations étouffées. Tu m'as serré la main, j'ai tourné la tête, tu as déposé sur mes lèvres un léger baiser. Donc la douceur de la vie à Paris avec Sally, mais un mal-être qui continue et puis des souvenirs qui quelquefois envahissent complètement le quotidien. Alors les soirs de sortie, les soirs de fête, j'aime prendre mon temps pour rentrer, traîner dans la rue, je ne suis pas seule. Mon cœur bat encore au rythme des basses de la boîte dont je sors. Les chants que ma voix laisse échapper au dehors viennent d'ailleurs. Et il y a des moments où plus personne ne me regarde, c'est bien. Je peux vivre, moi, entière, seule, dans mon univers. Donc Paris, oui, c'est l'affirmation d'une personnalité, l'affirmation de cette solitude qui a été recherchée, y compris dans l'enfance. Et puis c'est quand même, quelque part, le fait d'avoir tourné le dos, en effet, à l'enfance, dans laquelle les souvenirs sont quelquefois bien encombrants. Et à propos de tourner le dos, c'est ça qu'on va retrouver comme expression du souvenir de la dernière relation avec Delphine.
Delphine me tourne le dos. Elle se retourne un instant, son sourire narquois, ses cheveux blancs qui lui tombent sur les yeux. Elle ressemble à la méchante d'un film d'épouvante, sûre de sa supériorité. La semaine dernière, le sujet de la rédaction était « Faites la description de quelqu'un qui a l'air d'un démon mais qui est un ange » ou l'inverse. La prof demande « Qui veut lire ?» Je fixe ma feuille en espérant ne pas croiser son regard. Une main se lève, c'est Delphine. Un filet de sueur dégouline le long de mon dos. Elle se racle la gorge, lit avec application, la voix claironnante. Je connais quelqu'un qui a l'air d'un ange. Mais en fait, c'est un démon. Son regard moqueur fait des allers-retours entre sa feuille et moi. La sueur continue son lent chemin de vertèbre en vertèbre, le long de mon dos. L'air me manque, je déglutis péniblement. Delphine continue. Elle a l'air très gentille et elle sourit beaucoup. Elle a toutes les qualités d'un ange. Tout le monde penserait que c'est une bonne amie. Les regards sont tournés vers moi. Elle a dû les prévenir. Je baisse la tête, me cache derrière un air faussement concentré sur le tableau au loin devant moi. Elle poursuit. Mais en fait, c'est une hypocrite. Quand on a le dos tourné, elle trahit et ment comme elle respire. Lui faire confiance est une erreur fatale. Elle ne pense qu'à son intérêt. Delphine prend son temps pour lire. Marc dépose dramatique entre les phrases. On la croirait sur la scène d'un théâtre. Je me recroqueville sur ma chaise. Ses yeux sont ceux d'un serpent et ses cheveux jadis bouclés sont maintenant raides comme des bâtons. Même la prof a compris qu'il s'agissait de moi. Elle me détaille, mais ne dit rien. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Ma bouche tremble, mes mains sont moites. Je compte les carreaux de ma feuille posés sur la table devant moi. En conclusion, je dirais que certains êtres ont l'air d'anges, mais il faut faire attention, car ce sont de vrais démons. Surtout, ne vous approchez pas d'eux. Delphine se rassoit. Des rires étouffés fusent. Un applaudissement vite stoppé par la voix de la prof qui la félicite pour sa lecture. L'humiliation est totale. La tête baissée, je passe le reste de la matinée à attendre la sonnerie de la fin des cours pour me précipiter hors de la salle de classe. Tous les élèves de la classe se sont mis à se moquer de moi. Ils me balancent des boulettes de papier dans les cheveux quand j'ai le dos tourné. Je reçois des appels sur mon téléphone portable de numéros inconnus qui m'insultent. Le temps que je sorte de mon mutisme et prenne ma respiration pour répondre, ils ont déjà raccroché. Zeynep ne veut plus me parler. Elle dit que la situation est trop compliquée. C'est monté crescendo. Mesquinerie après mesquinerie, la rage de Delphine ne s'éteint pas. Alors, après l'école, je rentre auprès de Mima et ne quitte plus la salle télé. Zeynep ne veut plus me parler parce que Delphine dit à qui veut l'entendre qu'on est déjà gouine. Les filles s'éloignent et les garçons nous coincent dans le couloir. Ils nous imposent leurs gestes obscènes, impriment leurs hanches sur les nôtres, leurs coups de reins brutaux mimant un coït dont nous savons peu de choses. Brutalement, Zeynep, elle aussi, s'éloigne. Il ne reste de notre lien que des regards paniqués quand nous nous croisons dans le couloir.
Donc la difficile relation, oui, des filles à l'école, la difficile relation du monde français de Delphine et du monde tunisien de Zeynep et de notre narratrice. Mais au fond, cette dualité, elle demeure dans la vie donc de notre héroïne, puisque elle continue, alors qu'elle est installée en France en tant qu'étudiante depuis déjà maintenant quelques temps, elle continue à avoir honte de son enfance, elle la dissimule et elle ne dit à Sally, par exemple, rien sur ses origines. Pourtant, Sally lui dit « Raconte-moi ta vie, ma belle. » Ben oui, et dans un sourire encore, « Raconte-moi ta vie, mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte ?»« Ben, ce que tu veux, n'importe quoi, tu ne parles jamais de toi. » Je souris, je peux te raconter mon arrivée à Paris si tu veux. Je plonge à nouveau dans mon souvenir, mon activité préférée. Oui, c'est ça, ce sont les souvenirs. Je me rappelle, quand je suis arrivée à Paris, ben, c'était génial. Je mangeais tout, des paquets de M&M's, de Haribo, de Kinder. Le week-end, effectivement, je me nourrissais de kebab ou de panini Nutella. Mais j'ai découvert l'opulence que l'Occident avait à m'offrir et cette opulence qui se retrouvait à portée de main sur les étalages ou dans les publicités de la télévision. La main légère de Sally caresse mon front pour m'encourager à continuer. Je fixe le vide à travers la fenêtre. Ben, l'émotion est très forte, en fait. Cet été-là, j'ai refusé d'aller à la mer avec Zeynep. Sally fronce les sourcils. C'était qui, Zeynep ? Oui, ces souvenirs que quelquefois je refusais, ces souvenirs de matins froids, de routes goudronnées, de magasins qui fermaient à 19h. C'est vrai que c'était un autre quotidien. Et les gens, tu avais des amis ? Mais non, en dehors de Zainab, finalement, j'en avais pas. Et notre héroïne devient silencieuse sur cette relation avec Zainab parce qu'elle pense que peut-être Sally ne comprendrait pas. Sally ne comprend pas grand-chose à ce que je raconte. Elle hoche la tête, la bouche entrouverte. Elle est ébahie par ce que je raconte et qu'elle ne connaît pas, en effet. Donc, c'est vrai que quand je suis partie sans revoir Zainab. J'ai prétexté beaucoup de travail, des choses à faire, bien sûr, pour le départ. Et puis, Zainab racontait toujours que, aussi, de son côté, sa mère lui mettait la pression pour un mariage arrangé. Enfin, nous n'avions finalement plus grand-chose à nous dire. Je n'avais plus grand-chose à lui dire. Alors qu'ici, en arrivant, la vie est devenue palpitante. Je me suis mise à écouter de la musique dans des caves, j'ai siroté des rhums gingembre et j'ai découvert le jus d'hibiscus ou le club maté. En fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment une vie nouvelle que j'ai eue ici. Sally me regarde d'un air ennuyé. Bon, d'accord, mais tu as vraiment des secrets, tu vis autrement, tu as vécu autrement. Et en fait, cette relation qui se construit avec Sally, c'est difficile parce que, un peu comme il y a eu dans le passé Zainab et Delphine, eh bien à Paris, il y a Sally et Ellie. Sally, la grande nana qui n'a peur de rien, et Ellie, la jeune fille bien élevée qui, quelque part aussi, et comme Delphine précédemment, dissimule un peu ses tendances, dissimule ses sentiments et n'est pas, elle, vraiment militante. Et oui, Sally, elle est entière. Elle attrape sa tasse de café, elle avale une gorgée, elle coince le récipient sur ses genoux pendant qu'elle fait autre chose. Il va tomber, c'est sûr, mais elle est toujours en train de faire autre chose, Sally. Alors Sally, oui, elle a une clope, une tasse de café, ses cours, ses notes de cours, le boulot qu'elle fait, son téléphone. Et oui, elle est là, elle est toujours active, toujours en mouvement. C'est vraiment quelqu'un qui me retient sur le bord de la vie. Alors que Ellie, au contraire, c'est un calme total. Vous savez, certains poissons ont à l'intérieur de leur bouche, sur leur palais, un organe luminescent. Ils peuvent illuminer leur gueule ouverte et ainsi attirer une proie qui passe. Et ces poissons qui vivent au-delà de 1000 mètres de profondeur n'ont pas du tout la même physionomie que ceux qu'on connaît et qui vivent au-dessus d'eux. D'ailleurs, ils ont une musculature très faible, des muscles peu développés, un corps faible, oui. Par contre, leur gueule est énorme et leur estomac extensible. Quand ils trouvent une proie, ils peuvent la digérer pendant longtemps. Parce que plus on descend, moins il y a de proies disponibles. Les poissons des profondeurs doivent donc pouvoir profiter de la moindre proie qui passe. Et si cette proie est proportionnellement plus grande qu'eux, eh bien oui, ils l'ingèrent quand même et ils vont la digérer pendant des semaines. Alors on a bien le sens de cette encyclopédie des profondeurs, la encyclopédie marine que notre héroïne lit et transporte avec elle. Parce que finalement, les poissons des profondeurs, on a compris maintenant, elle se rapproche d'eux, ou enfin, elle se dit que leur vie se rapproche de sa vie à elle. Un jour, Sally se dirige vers moi, le pas élastique. Mes doigts s'agitent à toute vitesse sur l'écran du téléphone. Oui, on est là, on est de sortie, on est au dernier club à la mode. Et puis, avec les copines, la vie ne s'arrête jamais. Alors, cette vie, je ne sais pas finalement comment elle s'arrête, mais Sally est effectivement mille fois active, mille fois canon, mille fois sûre d'elle-même. Et notre narratrice auprès d'elle, finalement, a l'impression de marcher sur un champ de mine. On parle du présent, c'est bien, et on ne parle pas du passé, c'est bien aussi. Parce que le passé, je n'en peux plus, j'ai l'impression qu'il remonte sans arrêt. Je contemple l'univers et en même temps, j'ai l'impression de contempler la mer. Je peux être à côté de Sally endormie et la tête recouverte par une serviette, comme si j'allais prendre un coup de soleil, comme si j'étais encore, oui, là-bas, au bord de la mer. Mais Sally, c'est autre chose. Sally, c'est une femme qui vit, qui bouge. C'est une femme qui me garde dans ce monde actif et qui m'empêche de succomber ou de me noyer dans mes souvenirs. Alors Sally, pardon. Oui, j'aime les mots quand on la rencontre. J'aime les manifestations auxquelles on participe. Et puis, quelquefois, quand on colle dehors, on est coursé par des gens ou des vigiles mécontents. Alors nous slalomons parmi les personnes de la foule, nous courons dans des couloirs pour ne pas être rattrapés. Et quelquefois aussi, nous nous faisons courser, oui, par les vigiles ou par la police quand on est pris dans les rues à coller, quand on est prise ou pris, je ne sais pas. Oui, c'est une autre vie. Sally, elle est là, elle est toujours active. Mais toutefois, je comprends que Sally n'est pas sûre d'elle-même et ça m'attendrit. Parfois, elle parle trop vite, elle trébuche sur les mots, elle a un rire désaccordé qui sonne enfantin, elle détourne les yeux quand on la regarde. Les œillades de punk désabusées cachent aussi des yeux perdus quelquefois. Elle marche comme juchée sur des échasses, mais le soir, dans son studio, elle vient chercher la chaleur, le réconfort. Sally, c'est aussi ma bizarre, ma cabossée, parce que nous sommes toutes des bizarres et des cabossées. Et quand je suis paralysée par mes souvenirs, je retrouve Sally, oui, je retrouve Sally pour la tranquillité du soir, pour le calme, pour la douceur, parce que j'ai trop de mal-être. Depuis quelque temps, tout est flou. Je ne sais pas mieux l'expliquer que ça. Normalement, les objets avaient des formes définies. Je connaissais l'arbre en bas de chez moi, son tronc fin mais solide, ses pavés disposés en carré par la mairie de Paris. Je connaissais l'escalier, je connaissais les marches qui descendaient jusqu'à l'église, je connaissais le bus 76. Mais maintenant, il arrive que les passages piétons dansent en courbe sur la chaussée. J'ai l'impression que je traverse de guingois, que les murs ne sont plus des surfaces planes, qu'ils sont faits en chewing-gum. Oui, je vais mal. Je vais mal parce que je ne suis plus très bien en France. Je suis débordée par mes souvenirs. Finalement, après quelques années, je me rends compte que je ne m'adapte pas vraiment. Quand j'ai entendu, il y a quelques jours, dans un bistrot du coin, un débat animé en tunisien sur les élections, je me suis fait toute petite. Moi, j'étais allée voter au consulat, oui, mais je n'en avais parlé à personne. Alors, je m'éloigne instinctivement des canettes ou des discussions de comptoir. Une fille comme moi n'a pas vraiment sa place ici. Qu'est-ce que je suis finalement ? Est-ce que je suis la fille de mes souvenirs ? Est-ce que je suis la fille d'aujourd'hui ? La fille qui parle tunisien ou au contraire la fille au français sans accent, comme on me le fait souvent remarquer ? Alors, j'ai une tête rasée, oui, j'ai la moitié de ma tête rasée, je parle français sans accent, mais où est-ce que je suis vraiment ? Où est-ce que sont vraiment mes souvenirs d'enfant ? Ils me ressemblent ? Je leur ressemble ? Ou j'ai changé et j'ai vraiment changé ? Je ne suis plus de l'autre côté de la mer, je suis de ce côté-ci, puisque entre avant et ici, il y a la mer. Dans les concerts, où je vais volontiers, dans les concerts, je suis une autre, oui. Dans un léger brouhaha, par exemple, je regarde les consommateurs du bar, je regarde ceux qui écoutent le concert. Et puis, une fois, je suis allée écouter un concert de Oud. C'était vraiment différent. Plus de rock, plus de punk, mais un homme, oui, un homme qui jouait du Oud comme suspendu dans la lumière chaude du café. La vibration de la corde, les doigts qui se déplacent rapidement, le regard de l'homme comme amoureusement posé sur le manche de son instrument et sa voix qui s'élève. Je n'en pouvais plus, il a fallu que je sorte, c'était trop difficile. Je me suis réfugiée au coin de la rue sous un porche et j'ai laissé la pluie mouiller le bout de mes chaussures, tandis que le oud résonnait encore au loin par la porte entrouverte. J'avais mal au ventre, ma respiration était courte, ma transpiration salée qui coulait le long de mes omoplates, et même au bout d'un moment, les sanglots qui se sont mis à me secouer violemment. Alors oui, peut-être, j'ai un super pouvoir, tantôt je suis là, tantôt je n'y suis pas. Tantôt je suis là, tantôt je disparais, je monte dans le ciel, je vole, un peu comme un oiseau. De là où je suis, je peux voir les murs de la ville, les toits de la ville. L'espace autour de moi est devenu infini. Je sens le vent comme une caresse sur ma peau. Oui, je suis là et je suis ailleurs. Je suis venue, j'ai traversé la mer. Et au fond de la mer Méditerranée, oui, je le sais, il y a le corail d'eau froide, le zooplancton, les araignées de mer et les éponges blanches. Il y a des cachalots qui passent même pour s'y nourrir. C'est ce que j'ai appris dans l'encyclopédie. La Méditerranée, il y a certaines choses que l'encyclopédie ne dit pas. L'encyclopédie, elle ne parle pas des corps d'hommes, de femmes et d'enfants qui gisent au fond de la mer. Ceux et celles qui ont tenté de la traverser et qui sont morts en chemin, victimes des politiques migratoires répressives et sécuritaires de l'Europe. Maintenant, je suis du bon côté de la frontière, je ne finirai pas noyée, mais je resterai éparse, comme avec plusieurs morceaux de terre, comme avec les histoires de colons et de dominés, comme avec les histoires de dignité arrachée, puisque jamais d'ici, jamais de là-bas, un jour ici, un jour là-bas, toujours à la fois, ici et là-bas. Une vie floue, oui, une vie mélangée. L'entre-deux me multiplie mais me constitue. Autrefois, je voulais disparaître, mais cet entre-deux, je sais maintenant qu'il est ma puissance. Voilà, c'est la fin. Eh bien, écoutez, Nelly Slim, j'espère qu'elle vous aura retenu et que ces histoires de mosaïque entre la Tunisie et la France vous auront intéressé. Et que, comme elle, nous sommes prêtes à nous construire en tant que femmes. Et c'est ce que nous verrons vraisemblablement la prochaine fois avec un autre livre d'une migrante qui nous racontera justement son expérience. À bientôt, bonne semaine engagée et bon printemps engagé.
Permis de construire pour Aman et Baya. Aman suggère: allons voir ce que fait Leonardo. Il se dirige vers l'atelier. Personne. D'une faille dans le rocher jaillit de la lumière. Aman et Baya suivent cet indice. Ils entendent la voix de Leonardo. Les enfants, nous allons aujourd'hui observer les feuilles des arbres. Plus on regarde la nature, plus on apprend.
Radio!
Salut!
Vite, vite!
Bonne
Maria à la rue, dans la rue à Marseille.